Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
En ce début de printemps et alors que sort dans plus de 300 salles un film intitulé « Le jardinier du roi », Franck Ferrand nous propose aujourd'hui de revenir sur le génie des jardins à la française, André Le Nôtre. Bonjour Franck.
Bonjour Ambline, bonjour à tous. Le Nôtre a désormais son grand biographe, Patricia Bouchenaud-Deschins, que je suis heureux de recevoir au cœur de l'histoire. Vous avez raison Ambline, Le Nôtre est un sujet de saison. Et du reste, le prochain week-end, celui de l'Ascension, verra se dérouler dans le cadre bucolique du jardin anglais de Chantilly, un rendez-vous incontournable pour les amoureux des verdures, les journées des plantes dites de Courson. Alors cette année, c'est pas au château de Courson, c'est donc bien à Chantilly.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Romain via la page Facebook de l'émission sur l'origine de l'expression « le clou du spectacle ».
Eh bien, pour beaucoup d'entre vous, je sais que ce retour aux origines fait figure de clou de l'émission. Pour le moment, je vous propose de vous armer d'un râteau, d'une bêche, d'un sarcloir, d'un sécateur, d'un cordeau, d'une lunette et puis d'une brouette aussi, et de me suivre le long des belles allées de Monsieur Le Nôtre.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
En 1698, un Britannique qui s'appelait Martin Lister a parlé de Le Nôtre, qu'il avait aperçu, vous savez, quand on allait se promener à l'époque dans le quartier des Tuileries, on pouvait approcher de la maison de Monsieur Le Nôtre et on le voyait toujours vêtu d'une sorte de paletot couleur feuille morte et avec sa grande perruque qui commençait à être un petit peu démodée. Mais enfin, il se promenait, ce vieux Monsieur Le Nôtre, que notre Anglais avait appelé le vieux monsieur de beaucoup de talent. Tout est là, peut-être, car effectivement, Le Nôtre n'est pas seulement le jardinier qui a retenu l'école et qu'ont retenu les manuels scolaires, Le Nôtre est une sorte d'esthète du XVIIe siècle dont toute la dimension est reparue grâce à la biographie que Patricia Bouchenaud-Deschins nous a proposée il y a maintenant 2 ans. Biographie qui a reçu une avalanche de prix. Je me paierai le luxe tout à l'heure de donner toute la liste des prix que vous avez reçus, Patricia Bouchenaud-Deschins. C'est assez impressionnant. Le Nôtre est certes un homme du paysage, c'est certes un grand géomètre, un mathématicien qui maîtrisait mieux que quiconque la perspective, on pourrait presque dire d'ailleurs les perspectives, vous verrez pourquoi je mets ça au pluriel, mais il était aussi hydraulicien bien entendu et architecte, il était contrôleur général, donc haut fonctionnaire, c'était un grand collectionneur, c'était un homme qui avait, nous allons le voir dans un instant, appris les arts dans toutes leurs différentes dimensions. Donc c'est un grand personnage, celui que Éric Orsenna surnommait l'aménageur pharaonique. Et c'est vrai qu'il y a dans l'ampleur des travaux menés par André Le Nôtre quelque chose de tout à fait qui paraît presque inhumain, qui paraît en tout cas surhumain. Il était né le 12 mars 1613, cet André Le Nôtre, il était né à Paris. Je précise bien cette date, printemps 1613, parce que lorsque vous savez que Louis XIV, lui, est né à la toute fin de l'été 1638, ça veut dire que Le Nôtre avait 25 ans de plus que le roi, et qu'il pouvait passer d'une certaine manière pour un grand frère, ou même peut-être, en allant un peu loin, pour un père de substitution pour Louis XIV, qui, on le sait, avait pour lui une amitié particulière. Dans la relation qu'il y avait entre ce roi encore jeune et ce monsieur déjà plus âgé, il y avait cette relation de confiance un peu filiale d'un côté et paternelle de l'autre incontestablement. Et je précise ça parce que dans le film, nous allons en dire un mot tout à l'heure avec Patricia Bouchenaud-Deschins, dans le film, au contraire, on nous présente un Louis XIV un petit peu rassis avec au contraire un tout jeune Le Nôtre. C'est un peu le paradoxe et l'erreur de base, si je puis dire, de ce film qui s'appelle d'ailleurs « Les jardins du roi ». C'est moi qui me suis trompé, j'ai fait une coquille tout à l'heure, cher Ambline. Alors, Le Nôtre est né, et ça, il faut bien saisir ça. Il est comme tous ces très grands faiseurs du XVIIe et du XVIIIe siècle, comme tous ces grands créateurs, il naît dans une lignée. Il s'inscrit dans une sorte de dynastie. On est de père en fils dans le monde des jardins. Son père Jean était dessinateur des jardins du roi aux Tuileries. Son grand-père, Pierre a lui aussi été jardinier du roi. Il a travaillé d'ailleurs pour Catherine de Médicis. À l'époque, on était en train de transformer cette espèce de marais de bourbier de No Man's Land, qui était la région des Tuileries aux portes de Champs-Élysées, qui n'étaient encore que des bois. À l'époque, on était en train d'en faire un grand et somptueux jardin. Quant à la mère, Marie-Jacqueline, elle aussi est fille de jardinier. On est vraiment donc, on peut dire que le petit André est tombé dans le chaudron de potions magiques quand il était petit. Son parrain, André Bérard de Maisoncelles, est contrôleur général des Jardins du Roi. Donc, ce qui veut dire là aussi, attention, qu'on est dans une forme d'aristocratie des jardins. Ça, c'est ce que Patricia a très bien montré dans son travail et qui modifie peut-être un peu le regard qu'on pourrait avoir sur le nôtre, qui n'est pas le jardinier issu de rien et self-made man qu'on aurait pu peut-être nous présenter un peu. La marraine d'André, elle s'appelait Claude de Martigny, elle épouse de Claude Mollet. Et qu'est-il, Claude Mollet ? Également, il travaille pour les Jardins du Roi, hein. Il est aux Tuileries. Et deux ou trois des sœurs d'André vont épouser des jardiniers. Quant au petit André, mais faut l'imaginer pendant toute sa jeunesse dans ces somptueux Jardins du Roi et dans ces Jardins des Tuileries tout particulièrement. Alors, n'oubliez pas pour autant qu'il y a dans toutes ces dynasties, dans toutes ces familles, l'idée d'une ascension progressive et sur plusieurs générations. Il est donc normal, si tout va bien, que les enfants aient une position un peu plus élevée que les parents et les petits-enfants nettement plus élevés que les grands-parents. Ça s'inscrit dans cette idée. Et c'est pour ça qu'on essaie de donner aux enfants l'éducation la plus vaste et la plus pointue possible. Notamment, le jeune André va passer par l'atelier du célèbre peintre, le plus grand peintre de l'époque, tout petit peu oublié de nos jours, malgré la grande exposition, mais qui pour autant a été sans doute l'emblème de sa génération, c'est Simon Vouet, premier peintre du roi, hein, du roi Louis XIII en l'occurrence. Et il n'a pas fait un stage de 4 mois, le nôtre. Il est resté 6 ans auprès du maître. Et c'est là qu'il a sans doute travaillé à l'extrême sur ces notions de fuite, de point de fuite, de perspective, etc. Comme on pouvait le faire dans tous ces grands ateliers. C'est sans doute là aussi qu'il a rencontré un certain nombre de ceux qui plus tard travailleront avec lui. Un de ceux qui vont faire la gloire du grand siècle. Et je pense en l'occurrence, bien sûr, à Charles Lebrun. Il y a comme ça des rencontres, il y a des retrouvailles dans ce grand siècle. Dites-vous que c'est quand même inouï que ces génies que sont un Louis Levaux qui a révolutionné et en plus révolutionné dans la continuité, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de choc. Celui qui va révolutionner la conception architecturale, c'est-à-dire Louis Levaux, celui qui va fonder un nouveau style, qui va poser les bases d'une esthétique nouvelle qu'on appellera cette esthétique du grand siècle, Charles Lebrun, et puis donc cet homme du paysage qui va refaçonner les grandes perspectives autour des demeures royales, André Le Nôtre. Tous ces gens-là ont vécu en même temps. C'est quand même assez étonnant d'imaginer le creuset qu'a pu être ce grand siècle. On était à un niveau de savoir-faire, c'est bien au-delà de la compétence, hein. Là, on peut parler de créativité, de perfection, de dépassement de soi-même, tout à fait inouï. Peut-être que jamais la France n'avait atteint un si haut degré de perfection dans la maîtrise des arts et d'une manière plus générale, dans l'esthétique qui prend possession de la vie. Le grand siècle n'est pas seulement grand à cause du grand roi, je dirais même peut-être que c'est le grand roi qui s'est mis au niveau et à l'échelle de son temps.
Du roi de Jean-Baptiste Lully sur Europe 1, un extrait du CD des musiques royales de Stéphane Bern. Une figure mythique de l'histoire des jardins est à l'honneur ce lundi après-midi Franck Ferrand, vous nous parlez d'André Le Nôtre.
Eh oui, c'est André Le Nôtre qui va faire ses premières armes. Il devient premier jardinier de monsieur. Alors le monsieur dont on parle, c'est pas encore le Philippe frère de Louis XIV, c'est le Gaston frère de Louis XIII, bien entendu, qui va lui confier une partie des jardins de Blois, du Luxembourg, etc. Il va récupérer la charge de son père. Quand je dis récupérer, on croirait que c'est une petite formalité. C'est beaucoup plus important que ça. Ça, on viendra tout à l'heure, hein, parce que je voudrais qu'on insiste sur cette idée de transmission qui existait dans les grandes carrières de l'époque, hein, du XVIIe siècle, cette charge de premier jardinier du roi aux Tuileries. C'est important parce que ça veut dire que on nous présente souvent la triade de Vaux, comme on l'appelle, comme une sorte de découverte. On sait que Louis XIV est allé le 17 août 1661 à Vaux-le-Vicomte pour assister à cette espèce de très grande fête donnée par son surintendant, par Fouquet. Il aurait été complètement ébloui et il aurait récupéré à Vaux les artistes de Fouquet. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est Fouquet qui fait travailler à son service un certain nombre des artistes du roi et parmi eux, évidemment, André Le Nôtre, qui donc est déjà un jardinier du roi, travaille déjà pour l'État. Son premier grand jardin français, sans doute celui du château de Vatigny, on y viendra, hein, ça au sud de l'île, on est en 1640. Le Nôtre épouse, il a 27 ans, 1640, oui c'est ça, il épouse Françoise Langlois, qui est la fille du gouverneur des pages de la Grande Écurie. Vous voyez qu'on est bien dans ces milieux de cour qui n'ont de cesse d'approcher un peu plus des cercles immédiats du pouvoir. L'idée étant d'avoir l'oreille du roi. Vous voyez, on est dans cette idée, dans cette proximité-là. En 1643, Le Nôtre devient dessinateur des plans et parterres des jardins du roi. Il va refaire le jardin de la reine à Fontainebleau. Il met au goût du jour un certain nombre de parcs. Je pense à Fontainebleau, par exemple, à Maison, etc. C'est probablement lui qui assure la restauration des jardins de Meudon. Enfin bref, on est dans un travail général pour les grandes résidences royales. Le Nôtre ne tombe pas du ciel, si je puis dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et en 1653, il est contrôleur des bâtiments. En 56 à 43 ans, on le voit continuer à travailler encore une fois pour le roi quand il est happé, comment dirais-je, détourné, utilisé par Fouquet, certes, pour les travaux extraordinaires de Vaux. Alors il y a évidemment, c'est vrai que ce qui s'est produit à Vaux à ce moment-là est inouï. Et quand on se promène à Vaux-le-Vicomte aujourd'hui, on ne peut qu'être ébloui par le travail qu'a fait Le Nôtre, bien au-delà de la double, vous savez, de ce double niveau des grandes allées à la française, des grandes perspectives, des terrasses et des plans d'eau, et puis à l'intérieur des petits bosquets, des découvertes, des salons, des cabinets de verdure, de fraîcheur, etc. C'est tout ce qui fait la spécificité d'un jardin à la française. Au-delà de ça, il y a à Vaux un travail global sur le paysage avec une double perspective. Ça, c'est complètement inouï. Quand vous êtes depuis les terrasses du château, vous avez cette perspective fuyante extraordinaire sur la campagne qui va devenir peu à peu une sorte de signature de Le Nôtre et même une référence, nous le verrons tout à l'heure, urbanistique au-delà même de la dimension des jardins. Et puis quand vous allez de l'autre au bout, là-bas, du côté de l'Hercule Farnèse, que vous avez traversé la Poêle à Frire, que vous êtes allé au bout du jardin, vous vous retournez et vous avez d'abord la plus belle maison de France, parce que je crois qu'on ne le dira jamais assez, cette maison, ce château de Vaux-le-Vicomte est sans doute la plus belle maison de France dans sa plénitude, dans son incroyable rayonnement, avec son double dôme, enfin tout ça est magnifique. Et puis, devant le château, vous avez une autre perspective et vous vous rendez compte que Le Nôtre a travaillé pour qu'on puisse voir la perspective des deux côtés. C'est complètement... Tout ça est assez extraordinaire. Alors c'est vrai que après cela, après l'arrestation de Fouquet, etc., etc., Le Nôtre va se trouver embringué, si je puis dire, dans les travaux. Alors là, on arrive dans ce qui me touche le plus à cœur, c'est que j'ai beaucoup étudié cette question, c'est la question de ce qui s'est passé à partir de 1662 et surtout à partir de 1667 à Versailles. C'est-à-dire l'ambition de Louis XIV de transformer l'ancien pavillon de chasse et la demeure très secondaire de son père en une très grande demeure et qui un jour deviendra même le siège du gouvernement et la résidence de la cour. Enfin, on n'en est pas là, loin de là. Mais en tout cas, c'est vrai que Louis XIV dans son petit domaine pour l'instant très particulier, très privé de Versailles, a un peu la folie des grandeurs. Et c'est vrai que ce que va lui proposer la fameuse triade, hein, ce que vont lui proposer d'abord le nôtre, ne l'oublions pas, parce que c'est lui qui est à la manœuvre, et puis accessoirement le veau qui va remanier complètement la demeure jusqu'à la refaire et l'envelopper de ce qu'on appellera plus tard l'enveloppe neuve, hein, qui est cette espèce de nouveau style tout à fait extraordinaire. On sait que François Dorbet a joué d'ailleurs là un rôle au moins aussi important que le veau. Et puis bien sûr, celui qui arrive le troisième, si je puis dire, c'est-à-dire Charles Lebrun, qui va donner sa patte sur tout ça, qui va créer ce qu'on appelle les grandes commandes, c'est-à-dire tous les éléments, tous les programmes décoratifs intérieurs et extérieurs qui donneront à Versailles sa dimension complète. Alors bien sûr que le nôtre est complètement impliqué là-dedans. C'est lui qui crée à trois reprises d'ailleurs, parce que on va pas entrer dans tous les détails, mais enfin qui va créer le Grand Canal, qui va créer une première orangerie. Plus tard, il y en aura une deuxième. Mais alors là, il faudra compter avec l'influence d'un certain Mansart, qui n'est pas le Mansart François Mansart, mais qui est son neveu lointain, Jules Ardouin Mansart. C'était pas le copain de Le Nôtre, lui, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec aussi des projets incroyables. C'est-à-dire qu'il y a chez Le Nôtre une espèce de volonté de satisfaire le maître. Le maître, c'est le roi, c'est le commanditaire, c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Et c'est celui auquel tous les fils finissent par revenir d'une certaine manière. Et il faut, si vous me passez cette expression très contemporaine, tout à fait d'aujourd'hui, il faut le bluffer en permanence. Il faut lui proposer des projets qui soient à la mesure de son ambition et des moyens colossaux qui sont les siens. Alors, pendant un quart de siècle, un énorme travail va modifier le domaine de Versailles. Quand on parle de Versailles, attention, c'est pas seulement le petit parc, ce qu'on appelait à l'époque le petit parc, c'est-à-dire les jardins de Versailles tels que nous les connaissons. C'est l'ensemble du paysage du domaine royal qui englobe jusqu'à Trianon d'un côté, la ferme de Galli, jusqu'à évidemment Saint-Cyr, qui sera plus tard la maison d'éducation de Madame de Maintenon, et puis de l'autre côté, Montboron, etc. Bref, c'est tout un immense domaine qui va se transfigurer, qui va créer les bases de ce qu'on appellera le grand jardin à la française, qui va faire la fierté de Louis XIV, bien entendu. Mais il ne faudrait pas croire que Le Nôtre se contente de ça. On le voit œuvrer à Saint-Germain, évidemment, et comment ? À Saint-Germain-en-Laye, surtout dans la partie ce qu'on appelle le Château Neuf, on viendra sur tout ça. À Chantilly, à Saint-Cloud, partout, à Meudon, à Ney, à Choisy, pour Colbert, à Sceaux. À chaque fois que quelqu'un a une demeure un peu extraordinaire, il a envie que le cabinet de Le Nôtre intervienne. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est assez amusante, et faites alors vraiment l'expérience, vous verrez. Vous allez le week-end visiter tel ou tel château complètement perdu dans des provinces très reculées pour l'époque, et vous demandez, alors vous avez presque toujours une amorce de jardin à la française, plus ou moins réussi, il y a tout, il y en a qui sont absolument somptueux, bien sûr, et presque toujours, le propriétaire ou la personne qui va vous faire visiter les lieux va vous dire, ah mais les jardins ont été dessinés par Le Nôtre. Jusqu'où est-ce Le Nôtre qui dessinait tout cela ? Voilà une des questions que j'ai très envie de poser à Patricia Bouchenaud-Deschamps.
Bel après-midi sur Europe 1, vous écoutez Au cœur de l'histoire et nous attendons vos messages, chers auditeurs, vos questions via la page Facebook de l'émission, par mail europe1.fr, via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Nous vous retrouvons dans un instant, Franck Ferrand, pour la suite de notre déambulation dans les allées des jardins d'André Le Nôtre.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Il est considéré comme le père du jardin à la française. Vous nous parlez, Franck Ferrand, du jardinier des rois, André Le Nôtre.
Je pense que nous allons faire frissonner Patricia Bouchenaud-Deschamps, qui a mis beaucoup d'énergie et passé beaucoup de temps à démontrer que le jardin à la française avait commencé en quelque sorte bien avant André Le Nôtre et qu'il s'était transformé bien après. Mais c'est vrai, Omblin a raison, c'est bien lui qui reste, dont l'image reste, dont le nom reste attaché à ce jardin à la française. On va voir pourquoi il a à ce point marqué son temps, Patricia. Alors, il a marqué son temps, c'est vrai, auprès. Alors, tous les grands souverains voulaient le consulter, tous les particuliers. Dès qu'on avait un peu d'argent, qu'on avait un jardin à faire, il fallait que Le Nôtre mette sa patte, même si ça n'était qu'à travers un croquis, d'une certaine manière. Il a tous les honneurs, ce Le Nôtre, et ça tient ça au fait. Louis XIV va l'anoblir, vous savez, vous connaissez ses armes. Trois limaçons couronnés d'une pomme de chou avec une bêche et un râteau, si c'est pas l'humilité même, ou la fausse modestie, je ne sais pas, un petit peu des deux, probablement. Il sera reçu dans l'ordre de Saint-Lazare, le roi lui fait composer là vraiment son blason. Alors de sable à un chevron d'or, accompagné de 3 limaçons d'argent, les deux du chef, donc d'en haut, adossés et à celui de la pointe contournée. Il va rentrer à l'Académie d'architecture en 81, il est chevalier de l'ordre royal de Saint-Michel, enfin il a un très grand nombre de récompenses, etc. Et d'une façon générale, son premier titre de gloire, c'est d'être proche de Louis XIV. C'est peut-être à ce titre-là qu'il va être reçu par le pape Innocent XI. Il est vraiment parti en très grand équipage pour l'Italie, le nôtre, on verra pour quelle raison d'ailleurs, parce que ce n'était pas uniquement pour son plaisir et pour sa gloire. À la fin de l'entrevue, il aurait dit « Je ne me soucie plus de mourir, puisqu'à présent j'ai le visé familièrement avec les deux plus grands hommes du monde, votre sainteté, dit-il au pape, et le roi, mon maître. » Et le pape aurait répondu « Votre roi est un grand prince victorieux, moi je ne suis qu'un pauvre prêtre, il est encore assez jeune, moi je suis vieux. » « Mon révérend père, aurait rétorqué le nôtre, vous vous portez bien, vous enterrerez tout le sacré collège. » Et les deux hommes auraient beaucoup ri, et le pape, dit-on, se serait laissé embrasser par le nôtre. Alors évidemment, après tout cela, le nôtre n'a eu de cesse que de faire savoir ce qui s'était passé. Imaginez la gloire, il a carrément embrassé le Saint-Père. Il écrit ça à Bontemps, qui est premier valet de chambre du roi. Bontemps le fait lire la lettre au lever du roi, et il y a parmi les courtisans qui sont là présents au lever, le duc de Créqui, qui est prêt à parier 1000 louis que la vivacité du jardinier royal n'a pas été jusqu'à embrasser le pape. Quand même, dit Créqui, je pense qu'il se vante un peu. Et là, Louis XIV intervient. « Ne pariez pas, lui dit-il. Quand je reviens de campagne, le nôtre m'embrasse toujours. » Alors, il a bien pu embrasser le pape. Et c'est vrai qu'il y a, entre le roi Louis XIV et cet homme qui est un peu responsable des paysages de son siècle, il y a beaucoup plus que la relation de confiance qui peut exister entre un commanditaire et son exécuteur. Il y a vraiment, je pense, une amitié, il y a un lien que Patricia Bougenot-Deschamps a su cerner et dont elle va nous parler dans un instant. Il y a sans doute une confiance très particulière et qui est liée au fait que le nôtre a toujours, aux différentes phases du règne de Louis XIV, su répondre à ce qu'attendait le roi. Il a su répondre aux secrets et aux intimités et aux fêtes qui étaient celles du tout premier Versailles. Il a su donner au grand Versailles et au grand Trianon qui va avec la splendeur de la période la plus rayonnante du règne. Et puis, sur le tard, sur le déclin, lorsque Louis XIV, devenu âgé, devenu un peu plus difficile, a voulu se retrancher du monde, il a su lui fabriquer cet extraordinaire rideau de verdure qu'est le parc de Marly, dont on parlera aussi, dont à mon avis on ne parle jamais assez car il est absolument extraordinaire ce parc de Marly. Et puis le nôtre, encore une fois, n'est pas seulement actif dans le domaine des jardins. N'oubliez pas d'abord, c'est un homme qui a des revenus considérables. Il a récupéré, enfin il a peu à peu constitué une impressionnante collection d'œuvres d'art. C'est tout à fait inouï. C'est le marquis de Sourches qui s'y connaissait dès qu'il était question d'argent, puisqu'il ne pensait qu'à ça. Sourches estime la collection de le nôtre à plus de 100 000 livres et on verra que c'est même un montant probablement encore sous-estimé. Quand on va faire l'inventaire de ses biens à sa mort, on trouve énormément de choses incroyables. Et le nôtre va aller jusqu'à léguer cette collection à Louis XIV. N'oubliez pas qu'il est nettement plus âgé que le roi et qu'il meurt le 15 septembre 1700 à l'âge de 87 ans. Le roi vient de perdre un homme rare et zélé pour son service et fort singulier dans son art et qui lui faisait honneur. C'est Monsieur le Nôtre, écrit le Mercure Galant, qui est donc la gazette de l'époque. Monsieur le Nôtre, contrôleur général des bâtiments de Sa Majesté, jardins, arts et manufactures de France, jamais homme n'a mieux su que lui tout ce qui peut contribuer à la beauté des jardins. Alors, le nôtre sera enterré à Saint-Roch. On sait que sa tombe, bien sûr, sera profanée comme tant d'autres au moment de la terreur. On pouvait lire sur l'épitaphe Ici repose le corps d'André Lenôtre. La force et l'étendue de son génie le rendaient si singulier dans l'art du jardinage qu'on peut le regarder comme ayant inventé les beautés principales et porté tous les autres à leur dernière perfection. Eh bien voilà peut-être la première réponse à notre dernière question.
Pour les funérailles de la reine Marie-Thérèse de Marc-Antoine Charpentier sur Europe 1, interprété par le chœur de chambre de Namur.
Et ça fait partie du fameux CD de l'ami Stéphane Bern, ce CD de musique royale. Si vous aimez la musique royale, comme c'est mon cas, je pense que ce CD est fait pour vous.
Un album qui est disponible. André Lenôtre est au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le chercheur associé au centre de recherche du château de Versailles, Patricia Bouchenaud-Deschamps, auteur d'André Lenôtre, publié chez Fayard.
Alors Patricia, bonjour d'abord.
Bonjour Franck.
Je ne voudrais pas vous faire rougir, mais quand même, vous avez eu le prix Hugues Capet, ça je suis bien placé pour le savoir, en 2013, le prix de l'Académie pour vos travaux sur le nôtre, de l'Académie française hein, s'il vous plaît, le prix Redouté qui est remis annuellement au château du Lude, le prix européen René Pecher 2014, et puis alors là vous arrivez de Chicago, vous avez reçu le Philip Johnson Exhibition Catalogue Award et vous repartez pour New York dans quelques heures pour aller recevoir encore un autre prix. Vous arrivez, votre cheminée est assez grande pour porter tous ces trophées.
Je ne les reçois pas seule, puisque j'avais publié avec Georges Farah, commissaire avec moi de l'exposition André Lenôtre en perspective, un ouvrage collectif qui donc est récompensé à cette occasion-là, puisque paru en anglais. Et effectivement, les Américains, les Anglais, etc., ont été, comme on dit, scotchés par la nouveauté des recherches et ce qui avait été trouvé à la fois sur notre bonhomme Lenôtre et, j'ai envie de dire, les réseaux sociaux.
Parce c'est, que ça,
c'est ça,
hein, voilà.
C'est très moderne. Et c'est ça ce qui est le plus étonnant. Ce sont les réseaux sociaux de Lenôtre et puis sa manière de travailler qui ne touche pas seulement la perspective, mais qui touche des notions plus complexes qui avaient été creusées par Georges Farah, à savoir les anamorphoses, les collimations, ce qui va faire le génie de Lenôtre. Et vous parliez, je buvais vos paroles quand vous nous racontiez l'histoire de Lenôtre. Vous nous parliez très justement de l'importance de ce séjour chez Simon Vouet. Simon Vouet, il faut imaginer quand il arrive, hein, c'est un jeune maître, hein, c'est pas le vieux peintre qui reçoit des jeunes élèves.
Oui, c'est encore le
jeune et fringant.
Oui, il est dans la force de l'âge.
Dans la force de l'âge, il arrive de Rome, il a la faveur de Louis XIII et il a la plus belle clientèle de Paris qui touche tous les domaines, clientèle royale, clientèle aristocratique, religieuse, etc. Et donc, ça veut dire que quand on est chez lui, en tant qu'élève, d'abord, il faut imaginer que c'est quelqu'un qui adore communiquer, transmettre, etc. Donc, ils sont très nombreux, les élèves, avec lui, et ils vont de chantier en chantier, ils rencontrent la crème de la crème des commanditaires, et ils réalisent les plus beaux chantiers, et ça va participer à ce fameux carnet d'adresses qu'a quand même cultivé les Lenôtres.
On a l'image d'un Lenôtre, un peu les pieds dans la glaise, c'est évidemment son arrière-arrière-petit-neveu un peu lointain, Gosselin ouais. Lenôtre, hein, l'écrivain, l'auteur de Petite Histoire, qui avait beaucoup contribué à accréditer cette image d'un homme qui avait toujours une ou deux salades dans une main, etc.
Oui, mais il ne faisait que reprendre ce que les prédécesseurs avaient dit. Et je dirais, Gilardin Mansart, qui a été le premier à assassiner Lenôtre un an avant
entre
sa mort.
Entre confrères, on se comprend.
Et voilà, exactement, une peau de banane ne fait jamais de mal. Et là, en l'occurrence, ça a été dramatique, car c'est l'écrit fondamental dans lequel on dit que Lenôtre avait reçu quelques lumières en matière d'architecture de l'oncle Mansart, alors qu'en fait, c'était un vrai architecte. Vous avez cité un certain nombre de réalisations, mais il faut penser à la terrasse de Saint-Germain, à la terrasse de Chantilly, à l'orangerie. L'orangerie du château de Versailles. Celle de Gilardin Mansart. Eh bien, cette orangerie, c'est quand même étonnant. Repartons à Versailles, que vous connaissez bien. Le célèbre tableau de Versailles, dit de Patel, 1668. Regardons-le bien ensemble. Vous avez les jardins qui s'étalent, avec à droite, sur votre droite, l'immense parterre du Nord. À gauche, une espèce de toute petite orangerie riquiqui. Relisez Mademoiselle de Scudéry, La promenade à Versailles. Elle nous dit déjà en 68, sous couvert d'informer ses amis, « Oh, regardez, regardez, ces toits brillants de partout, et cette orangerie que vous admirez tant aujourd'hui, eh bien, sous peu, elle sera détruite, et une du plus du double sera reconstruite. » Du plus du double. Jules Ardoin Mansart en 68 n'existe pas. Il n'arrive dans le paysage que 10 ans plus tard, entré par le nôtre.
Donc l'orangerie de Mansart, c'est l'orangerie de le nôtre, nous dites-vous.
C'est un projet, et il y a effectivement des textes qui disaient que, mais quand on relit les documents dans l'ordre chronologique, on voit bien qu'il est là. Et puis, un exemple magnifique, qui est un des derniers, c'est Copenhague. Le château de Copenhague, le roi du Danemark, va demander l'avis de le nôtre, non pas pour ses jardins, mais pour la reconstruction de son château. Donc vous voyez, c'est vraiment l'architecte, et cet architecte qui a été oublié.
Alors, justement, puisque vous êtes parti là-dessus, on reviendra après sur les fronts familiaux et sur la stratégie de le nôtre, etc., et sur sa formation. Mais pour ce qui est du cabinet, si je puis dire, de combien d'employés se compose-t-il ?
Alors, le cabinet, l'agence, l'entourage, cet entourage de collaborateurs de le nôtre. Alors, le nôtre travaille avec une poignée d'hommes qui sont ses plus proches collaborateurs, qui sont ses neveux et très proches. Le nôtre délègue peu, très peu. Donc, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du film Les Jardins du Roi, qui est une aimable promenade dans les jardins du XVIIe siècle, les jardins anglais d'ailleurs.
Qui était tourné entièrement en Angleterre, ça m'a pour un film sur les jardins à la française, mais enfin bon.
Mais, voilà, nous sommes peut-être trop chers.
C'est ça, oui.
Où il y en aura d'autres qui seront tournés en France. Ce qui est très, très intéressant, c'est de voir qu'en fait, tous ces jardins, ces collaborateurs sont donc une poignée, mais le nôtre ne délègue pas. Il garde la mainmise totale. Quand il va créer ce fameux bosquet dit de la salle de bal, qui est le sujet du film, ce n'est pas un jeune le nôtre, il a déjà 70 ans, c'est un homme mûr qui rentre d'Italie et qui va créer les deux bosquets les plus baroques de Versailles, qui sont la salle de bal
presque anachronique,
et le bosquet des sources.
Presque anachronique.
Oui, parce qu'on regarde encore Versailles avec un Versailles refait de nos jours, dans la dernière version où Jules Ardoin Mansart a beaucoup mis sa patte, les bosquets des sources ont été remplacés par cette grande colonnade. Mais tout ça, d'abord, en rentrant d'Italie, on a ces merveilleuses créations qui sont vraiment la patte de le nôtre. On a en tête un le nôtre assez raide, on a des grandes perspectives, on dit toujours
oui le nôtre, très taillé.
Voilà, on a des grandes perspectives, c'est très ennuyeux, et on a des bosquets qui sont très amusants. En fait, les perspectives révèlent des surprises d'étape en étape.
Au moins autant que les bosquets.
Avec surtout une magie. Le nôtre était passionné de théâtre, donc ça serait presque un sujet en soi. Et donc ces espèces de levées de rideaux qu'il va créer pour étonner le roi et qui correspondent
au sens propre,
aussi,
puisque quand on marche, on voit se lever littéralement les rideaux d'arbres.
Et
c'est étonnant.
Et les travaux de Georges Farad ont bien montré que il y a toute une série de collimations et donc de successions
d'étages. Ce qu'on appelle la collimation, faut expliquer en deux mots, parce que
et qui sont en fait des réglages de perspectives qui permettent de creuser le terrain pour pouvoir aménager tout cela de manière absolument nouvelle. Et donc on est là-dedans dans quelque chose qui est fascinant, parce que la promenade du roi, vous voyez bien qu'il propose différents points de vue.
La manière de montrer les jardins.
Cette manière de montrer les jardins du roi, on s'arrête à des points très particuliers qui révèlent à chaque fois le château d'une manière nouvelle. Alors évidemment, le nôtre, il va faire ça, non pas petit à petit, comme on l'a cru, c'est ça ce qu'il y a de plus nouveau, c'est que c'est vraiment un dessin d'ensemble conçu dès le départ. Sur notre tableau de 1668, on voit bien que tout est déjà programmé, et surtout, il y a quelque chose de magnifique. Donc, on le voit bien ensuite dans les travaux, il y a deux grands secteurs angulaires qui permettent de construire tout le jardin. Et donc, les textes confirment tout ça. Les travaux que l'on peut voir, les notes de chantier expliquent bien comment faire. À l'économie concrète. C'est-à-dire qu'il faut essayer de remuer le moins de terre possible, puisqu'on le porte à dos d'homme. Donc, voilà. Et surtout, on est dans quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire que vous parlez de cette période, 1661-1667, où tout se met en place, il y a un homme qui est fondamental dans le déclenchement de cette carrière, c'est Le Bernin. et sa visite de 65.
Ça c'est une découverte pour le coup. Hein.
Alors, c'est quelque chose d'assez étonnant parce que, si vous voulez, ça n'est pas prémédité. On sait que le Bernin vient à Paris.
Bernin, c'est l'homme du baldaquin de Saint-Pierre. C'est celui qui a fait la grande colonnade embrassante de la place Saint-Pierre à Rome. C'était l'architecte du pape, en
exactement,
fait.
Exactement. Hein. Chargé le grand de venir homme du en France, donner des idées nouvelles pour le Louvre. Et lui, avec son franc-parler, arrive et dit grosso modo à Louis XIV, écoutez, c'est absolument nul votre château. Il y a tout à raser, il faut tout recommencer. Donc, dès le départ, le quiproquo est installé. Hein, et donc, on va lui donner de la statuaire à faire, etc. Et essayer de le raccompagner et s'en débarrasser. Mais son avis est fondamental. Et on voit bien donc dans la correspondance de l'époque comment, en fait, on souhaiterait avoir son avis sur le nôtre. Et Louis XIV, vous souhaiterez l'avoir, ne va pas le solliciter. Mais par intermédiaire, on arrive enfin, presque avant la fin de son séjour en France, à faire venir le Bernin à Versailles. Et ça, c'est très amusant parce que officiellement, le nôtre, Louis XIV ne doit pas le recevoir, mais il se débrouille pour arriver le matin même. C'est le nôtre qui fait faire la visite des jardins. Comme par hasard, on sait donc que le Bernin s'est extasié sur tout le fer à cheval qui est créé. Et donc, c'est donc la pièce du bassin de la Tonne, et donc ce qui est un point fondamental en matière d'optique dans la création de Versailles. Et donc, le nôtre lui a certainement bien expliqué tout ça. Et là où c'est absolument délicieux, c'est qu'en repartant, eh bien, comme par hasard, y a-t-il des hasards avec un roi ou un souverain, eh bien, le roi est dans la cour et le croise en partant et demande au Bernin ce qu'il pense de Versailles. Et le nôtre, à l'époque, a les plus grandes difficultés pour avoir de l'argent. Les finances ne sont pas en excellent état. Colbert fait ce qu'il peut pour...
Colbert n'est pas l'ami du projet versaillais. Hein.
N'est pas l'ami du projet versaillais. Il préfère Paris et on le comprend. Et puis, il y a tant à faire à Saint-Germain et dans les autres maisons royales. Eh bien, Louis XIV, donc... demande au Bernin ce qu'il en pense, et le Bernin répond cette phrase magnifique: Sire, si j'avais comme une maison comme celle-ci, eh bien, je ne me contenterais pas d'y aller seulement de temps en temps. C'est pour le nôtre le feu vert hein, pour enfin
l'appui
démarrer.
Définitif.
C'est l'appui définitif pour ce grand projet de Versailles, et c'est aux yeux de tous. Le feu vert pour Louis XIV et le nôtre.
Décidément, à une époque où on parle beaucoup de poussins, on peut dire qu'il y a... D'ailleurs, il y avait des poussins dans la collection de le nôtre, énormément. Oui. Il y a quelque chose de romain et de baroque dans l'inspiration et dans l'univers de le nôtre. C'est ce qu'il faut bien comprendre, à mon avis. Il fait partie de cette ambiance-là et de cette époque-là. Alors... Absolument. Et les femmes dans tout ça, demanderait notre époque, c'est la question que pose le film Les Jardins du Roi, et c'est une question que je vais bientôt poser à Patricia Bouchenaud-Deschamps.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Le roi des jardiniers et jardinier du roi André Le Nôtre est au cœur de l'histoire. Votre invité, Franck Ferrand, le chercheur associé au centre de recherche du château de Versailles, Patricia Bouchenaud-Deschamps, auteur d'André Le Nôtre chez Fayard.
Alors, il y a une différence sur notre vision du film, c'est que vous l'avez vu et moi pas, Patricia Bouchenaud-Deschamps. Et vous l'avez aimé, ce film. Moi, j'avais un peu peur du point de vue qui est de nous mettre un personnage féminin dans les pattes, si je puis dire, d'André Le Nôtre, une sorte de jardinière. Ça me paraissait un peu bizarre, et vous qui connaissez ça vraiment par l'archive et dans le détail, vous dites, et pourquoi pas, c'est même ce qu'il y a de plus vrai, somme toute. Dans le film.
Vous savez, quand on connaît bien un sujet, c'est toujours, on va toujours voir des films sur ce thème avec un peu d'appréhension.
Oui, voilà.
Alors là, évidemment, je n'avais rien lu sur ce film, et donc j'ai découvert donc d'abord c'est la première fois, c'est un peu émouvant de voir un film sur le nôtre,
oui,
le
ouais,
nôtre sujet
vrai.
D'un film. Donc c'est le premier, c'est une première. Alors passer le choc de voir
un jeune Le Nôtre et un vieux Louis XIV, oui.
Avec un Louis XIV deux fois plus âgé que lui. Cela dit, ça se laisse agréablement voir. Ça se passe dans les jardins anglais et non à Versailles. Donc, à la limite, moi, j'étais ravie parce que j'ai envie de dire, les jardins de Versailles, je les vois tous les jours. Donc, je suis ravie de... Et c'était malin d'aller voir les jardins anglais parce que ceux qui ont été choisis, il y a un lien avec nos jardiniers
français.
Notamment
Blenheim. Hein,
alors, on a Clifden. Là, ce sont les élèves de Le Nôtre qui ont œuvré. On en a d'autres. Et puis, on a Blenheim. Alors, Blenheim, c'est assez surprenant parce que Blenheim... visiblement a fasciné le réalisateur pour les intérieurs. Et moi, je piaffais, j'attendais un moment. Blenheim, c'est quand même le grand parterre d'eau par Duchesne.
Qui fait beaucoup penser à celui de Versailles.
Qui était sur le modèle du premier parterre d'eau de Versailles, pile contemporain de cette histoire. Il n'a pas été utilisé. Donc voilà. Alors ça, c'était bon, ma déception. Cela dit, voilà, c'est
bon,
toujours
les femmes là-dedans.
Mais il y a les femmes. Alors c'est vrai que voilà, ce qui rachète un peu la chose à mes yeux, c'est qu'enfin on parle des femmes, parce que certainement, contrairement à ce qui est dit, le nôtre ne va pas chercher quelqu'un parce que il n'est pas assez bon pour faire ce projet pour le roi. Donc ça, c'est tout à fait inventé. Et c'est quand même, il est à l'apogée, on l'a compris, de son talent. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de mettre en scène les femmes officiers des bâtiments du roi, des jardinières en chef. Il y en avait, et qui n'étaient pas simplement, qui n'avaient pas ce titre uniquement parce qu'elles étaient la veuve d'un conjoint.
Oui, c'est ça, elles héritaient une charge,
en fait. Mal,
oui.
Ce qui était déjà pas mal. Ce qui était déjà pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, souvenez-vous, à l'époque, quand on regarde les manuels de l'époque, on dit, pour recruter un jardinier, commencez par regarder son épouse. Si elle est de bonne tenue, alors le jardinier sera bien. Donc, c'est gentil, mais enfin, ça ne donne pas tout à mesure du rôle qu'une femme peut peut-être avoir dans les jardins. On n'a pas beaucoup d'écrits et de documentation sur ce rôle des femmes, mais on les a jardinières en chef, en titre.
Pourquoi pas, donc, dites-vous. Hein.
Et donc, elles ont existé. On n'a pas encore de documentation, mais on n'avait rien sur Henri Dupuy il y a quelques années. Peut-être que quelqu'un va se consacrer à une biographie d'une femme. Voilà.
Justement, c'est Jérémy qui, via Twitter, nous dit qu'il vous a découverte à travers votre ouvrage Henri Dupuy, jardinier de Louis XIV. Et c'est vrai que c'est un ouvrage passionnant parce que voilà une figure qui avait complètement disparu, on va dire.
C'était un nom dans les comptes des bâtiments du roi. Et en retrouvant toutes les archives, j'ai pu retrouver toutes ces lignées et retrouver, du coup, des documents inédits
d'ailleurs,
sur le nôtre et réouvrir.
Je signale que la semaine prochaine, en compagnie de Mathieu Davina, nous reviendrons sur un certain nombre de figures oubliées de Versailles, de petits anonymes, si je puis dire. Vous savez, les valets, les gardes du corps, les gâteaux, les femmes de chambre, etc. Qu'on a eu tendance à passer un peu derrière le décor et qui sont très intéressants et qui nous
qui
en apprennent.
Et qui sont passionnants, parce qu'Henri Dupuy commence comme compagnon. Chez lui, il y a une chambre avec un lit et une table. À la fin de sa vie, il a une maison de 20 pièces. Il a été anobli pour lui et ses enfants. Et donc, je dirais que quand le nôtre est anobli, c'est pas ça la plus grande marque de faveur du roi, puisque tous les officiers qui ont travaillé dans les jardins ont été anoblis.
D'ailleurs,
c'est quand même quelque chose d'important.
J'ai commis une erreur tout à l'heure. Il faut faire attention et que les grands spécialistes comme vous ne laissez rien passer. J'ai dit que le nôtre était entré à l'Académie d'architecture en 81. Alors, en fait, il n'est pas. Voilà, c'est ça.
Il était
un peu en quelque sorte auditeur libre, mais il n'était pas membre de l'Académie, hein, c'est ça.
Mais ce qui est fascinant, c'est là où on voit la proximité de Lenôtre avec le roi, c'est l'intimité qu'il va partager avec lui. Le film le montre bien, c'est un grand collectionneur, on le voit au milieu de ses collections. Comme vous l'avez dit justement, il a légué une partie de sa collection au roi. Il a donné 21 tableaux, mais 21 tableaux dont
qui ne sont pas minces. Hein.
Il y a
des Lorrains.
Lorrain, Bruegel, etc. Mais il garde chez lui encore une centaine d'œuvres dans une seule pièce, dont 7 ou 8 poussins, voire peut-être 9 ou 10, puisque la recherche avance. Donc vous voyez, c'est vraiment un très très grand collectionneur. C'est un homme dont la conversation était extrêmement fine. Le roi avait plaisir à le rencontrer et les témoignages montrent qu'il était capable de tenir la conversation avec des pointures très fines, scientifiques, des ecclésiastiques, etc. Donc
Et c'est pas seulement, encore une fois insistons là-dessus et nous y revenons finalement à cette idée de carrière et de réseau, c'est pas seulement le jardinier au sens propre, ni même le paysager. Du reste, c'est un contrôleur général, c'est un grand collectionneur, c'est un esthète, c'est presque un conseiller artistique d'une certaine manière.
Et qui a été formé auprès d'un homme que Louis XIV a bien connu, c'est Gaston d'Orléans.
Mm-hmm.
Gaston
était un
grand collectionneur et c'est très amusant de voir les similitudes entre la collection de Gaston d'Orléans et ensuite la collection d'André Le Nôtre. Donc vous voyez, c'est tout ce milieu intellectuel extrêmement fin. Le Nôtre, c'était donc pas simplement des perspectives du paysage, etc. C'est quelqu'un qui est un homme qui aime ce qui est léger. Il aime la verdure, il aime les treillages, il aime les fleurs.
Il aime le naturel,
le
si
naturel.
Je puis dire.
Hein. Dans ses écrits qui sont rares, donc il était... C'est quelqu'un qui était dyslexique, ce qui explique aussi cette capacité à voir les choses en 3D, etc. Il explique pourquoi il laisse peu d'écrits et des écrits assez intéressants, parce qu'il y a une série d'écrits truffés de fautes typiques des dyslexiques, avec des bouts de syllabes qui manquent, une graphie un peu étonnante, une orthographe encore plus étonnante. Mais il laisse aussi des écrits très propres. Rigoureusement la même écriture, et entre-temps, en fait, je me suis fait confirmer que ces écrits étaient écrits par une femme. Alors, est-ce que c'est sa femme ? Est-ce que c'est comme dans le film, une femme. On ne sait pas, on peut toujours rêver. Non, ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans ses écrits, qui sont rares, il revient toujours sur cette double notion que pour que un jardin soit beau, qu'une réalisation soit belle, ce qui est important pour lui, c'est qu'à la fois elle soit, qu'elle montre une vraie grandeur, ça on s'en doute compte tenu du maître de Louis XIV, mais qu'elle soit d'un beau naturel. Et c'est cette intégration dans le paysage. C'est pas un truc plouf qui vous tombe dessus, une espèce de création. Non, c'est quelque chose qui est intégré très loin, de la plus petite échelle à la plus grande échelle, et c'est ce naturel. Et ce naturel, c'est dans l'acheminement des eaux, c'est dans le fleurissement, qui est aussi bien le fleurissement proche de la maison, mais également, si le commanditaire a suffisamment de moyens, jusque dans les bosquets, ces petits pots de fleurs qui sont accrochés à l'étrillage. Ouais. Sont
on est loin du Le Nôtre ennuyeux et un peu glaçant qu'on a voulu nous présenter. Voilà, en fait,
C'est un Le Nôtre surprenant, qui aime surprendre, qui aime les surprises, qui aime les fêtes, le spectacle, et tout cela, c'est un Le Nôtre beaucoup plus joyeux et beaucoup plus passionnant.
À la limite, ses suiveurs, tous ceux qui s'inscrivent dans sa postérité, ont été beaucoup plus sérieux, beaucoup plus ennuyeux, peut-être même pour certains, que Le Nôtre lui-même.
Absolument, parce qu'ensuite, on a eu une réduction de Le Nôtre. L'art de Le Nôtre a été réduit, et d'ailleurs très, très curieusement.
Un peu caricaturé, pour
caricaturé, et curieusement, le fameux traité des Alliés d'Argenville, qui reprend pas mal le principe de l'époque, ne parle pas de ces effets d'optique et de surprise qui créaient les plus spectaculaires dans les jardins de Le Nôtre, sans doute parce que le secret de Le Nôtre, entre guillemets, en la matière, avait été bien gardé et transmis simplement à deux collaborateurs, et donc il s'est éteint après. Mais doit-on juste dire qu'il a... Contraire, on a toujours dit qu'il n'avait pas écrit de traité, il a quand même écrit un livre dont il se servait pour raconter quelque chose de sa profession et qui a disparu très peu de temps après. Il a été consulté quand même encore au 18e, ouais, tout début du 19e siècle. Ouais. Il a disparu, donc on peut toujours se prendre à rêver qu'il réapparaisse un jour.
Oui, on le retrouvera peut-être. Peut-être. Il y a aujourd'hui des épigones, des élèves de Le Nôtre. Je pense évidemment à Jacques Garcia et Patrick Potier et leur incroyable jardin du château de Champ de Bataille, à fait extraordinaire dans l'heure. Je pense aussi à ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Versailles. On y est en train d'inaugurer un bosquet, là.
Voilà, dans quelques heures, on est en train d'inaugurer le nouveau bosquet du Théâtre d'Eau, et c'est assez réjouissant de voir que Louis Benech et Jean-Michel Autoniel ont pu réaliser une véritable création s'inspirant de ce qui se faisait à l'époque, qui n'est pas du tout une restitution du Théâtre d'Eau, une création, et c'est réjouissant parce que le jardin doit être lieu de création et pas simplement toujours recommencer ce qui a déjà été fait.
Et c'est Patricia Bouchenaud-Deschins qui nous le dit. Elle était co-commissaire avec Georges Farat de l'exposition André Le Nôtre en perspective 1613-2013, qui a donné naissance à un très bel ouvrage chez Hazan, et puis bien sûr chez Fayard, la biographie d'André Le Nôtre, également de 2013.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez, Franck Ferrand, à la question de Romain qui, via la page Facebook de l'émission, vous demande d'où vient l'expression « le clou du spectacle ».
Alors, vous savez qu'il y a beaucoup d'expressions qui parlent de clou. D'ailleurs, en argot, le clou, c'est le monde-piété. C'est la prison aussi, on dit « ça vaut pas un clou », etc. Je mets tout ça de côté. Le clou du spectacle, il y a trois explications possibles. Et il y en a une qui me paraît nettement plus convaincante que les deux autres. D'abord, on fait référence à la crucifixion. Vous savez, la crucifixion du Christ. Cet épisode, on est vraiment dans l'humour noir et quasiment dans le blasphème, mais le clou, ce serait en quelque sorte le moment clé par référence à cet épisode biblique. Personnellement, j'y crois pas du tout à ça, mais enfin, vous trouverez dans les dictionnaires, vous trouverez cette explication-là. On parle aussi, c'est beaucoup plus compréhensible déjà, de la notion de clou comme le clou qu'on plante dans un mur et auquel on va accrocher un tableau. Le clou d'un spectacle, c'est en quelque sorte ce qui se voit comme le tableau au milieu du mur. Vous voyez, c'est la chose la plus spectaculaire, tout simplement. Cette notion de spectacle. Et là, il faut aller chez Alain Rey pour trouver cette explication. Je pense que on trouve une ébauche de cette explication dans le livre d'Alphonse Daudet, 30 ans de Paris. Il met « Si nous mettions votre tambourinaire dans la pièce, il manque un clou, ça pourrait peut-être servir à accrocher le succès. » Voilà, à mon avis, la vraie et la bonne explication. Dans les milieux du spectacle, alors c'était le théâtre, la pantomime, les débuts du cirque, etc. Vous savez, on est au milieu et à la fin du 19e siècle, on développe partout des spectacles plus étonnants les uns que les autres, et l'on cherche un élément à quoi accrocher le succès, accrocher le public. Le clou, c'est ce qui va permettre d'accrocher le succès. Voilà, à mon avis, la meilleure explication. Et puis, et alors là, vous allez voir un peu, ça, c'est un saut périlleux que je fais tout à fait comme au cirque Achelet. C'est un saut périlleux puisque je vais vous parler du clou du château de Fontainebleau qui est inauguré aujourd'hui même et ça nous ramène aux grandes résidences royales et ça nous ramène à Le Nôtre, etc. Puisque figurez-vous que le boudoir turc de Marie-Antoinette, qui est une pièce absolument fastueuse, inouïe, merveilleuse, ce boudoir turc est ouvert au public aujourd'hui, 11 mai 2015. Alors je ne peux que vous inciter à aller à Fontainebleau, mais ça je le dis souvent parce que c'est la maison extraordinaire, le palais des siècles. Il faut aller à Fontainebleau et vous en profiterez pour visiter le boudoir turc de Marie-Antoinette.